RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et la Hongrie renforcent une coopération. La conférence religieuse de Kazakhstan. L'Indonésie discute de la coopération économique stratégique avec la Russie. Rencontre du Conseil d'affaires des États-Unis et l'ASEAN, le président a discuté sur le niveau de la facilité de faire des affaires avec l'Indonésie. Le président du Parlement soutient la ville d'Ambon d'être ville de la musique mondiale. Les peintures des artistes indonésiens sont exposées à la réunion du FMI et de la Banque mondiale. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre indonésien du Tourisme, M. Arief Yahya, a souligné le renforcement de la coopération entre l'Indonésie et la Hongrie pendant ces dernières années. Il a dit dans la célébration du 170e anniversaire de la révolution hongroise mercredi à Jakarta que le renforcement de la coopération entre les deux pays couvrait de nombreux secteurs tels que la coopération informatique et touristique. Selon le ministre Arief Yahya, les deux pays ont les opportunités pour améliorer la coopération bilatérale. L'augmentation de 8,9% de la valeur commerciale totale de l'Indonésie et de la Hongrie en 2017 n'a pas montré le véritable potentiel de la coopération entre les deux pays, car les deux pays peuvent encore améliorer les relations bilatérales. En 2017, la valeur de commerce atteint 133 millions de dollars américains, a augmenté de 8,8% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre ne reflète pas le véritable potentiel de coopération dans divers secteurs, tels que les technologies de l'information et de la communication, la santé, la défense, l'énergie, l'agriculture, la pêche et l'éducation. Et mon favori est l'industrie du tourisme. Auparavant, le chef de cabinet de la présidence, M. Muldoko, a déclaré que les investissements directs étrangers des pays de l'Union européenne est le deuxième plus grand en Indonésie. En fait, l'Union européenne est également le quatrième plus grand partenaire commercial de l'Indonésie. Après avoir reçu 21 ambassadeurs de l'Union européenne au bureau du personnel présidentiel, M. Muldoko a invité les ambassadeurs des pays de l'Union européenne à être plus optimistes pour investir dans ce pays. Le chef du Sénat du Parlement de la République de Kazakhstan, Kasym Jomart Tokayev, a rencontré le vice-président Yusuf Kala pour inviter l'Indonésie à assister à la conférence religieuse avec le thème « Conférence de rencontres politiques religieuses » qui aura lieu au Kazakhstan du 10 au 11 octobre 2018. Le vice-président Yusuf Kala salue l'invitation du Sénat du Parlement de la République du Kazakhstan. Selon lui, cette conférence est très importante pour le maintien de la paix mondiale. Youssouf Kalla soutient de la conférence religieuse au Kazakhstan pour promouvoir la paix mondiale par les négociations. Bien sûr, en tant que grand pays islamique participe profondément à la paix, le Parlement kazakhstan visite l'Indonésie en plus des relations mutuelles, invite également à participer à la réunion interconventionnelle mondiale au Kazakhstan. Le chef du Sénat parlementaire de la République de Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev, espère que l'Indonésie peut contribuer à la réunion. Selon le projet, la réunion sera assistée par un certain nombre de figures politiques, religieuses et des représentants de plusieurs pays. La Russie et l'Indonésie ont établi un partenariat stratégique entre les deux pays. C'est ce qu'a affirmé Lavrov après une rencontre bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsoudi, à Moscou mardi. Lavrov, comme indiqué la page du bureau de l'agence de nouvelles russes TASS, a déclaré que la Russie coopérait dans les domaines du commerce et de l'économie, militaire et humanitaire. Il a dit que cela était une excellente occasion de tenir des discussions sur toutes les questions bilatérales et les questions qui peuvent être le thème des activités conjointes au sein des Nations Unies et au Pacifique sur la participation active de la Russie à l'événement organisé par l'ASEAN. Cependant, le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsoudi, espère des négociations avec la Russie seront plus productives. Elle a dit que le but principal de la réunion était de discuter de la coopération économique. Elle est très nombreuse parce que l'objectif de cette visite est de renforcer les relations économiques de l'Indonésie, parce que l'Indonésie est l'une des plus grandes économies du pays en Asie de l'Est. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Après avoir reçu la visite officielle de la délégation du Sénat du Parlement de la République Kazakhstan, le président Joko Widodo reçoit une délégation du Conseil d'affaires des États-Unis, ASEAN, au Palais d'État Jakarta mardi. Au cours de la réunion, le président Jokowi et le Conseil d'affaires des États-Unis ASEAN ont discuté de la vaste comme d'expérience de l'industrie américaine en Indonésie, notamment certaines choses qui ont changé ces dernières années. Alexander C. Feldman, le président du Conseil d'affaires des États-Unis ASEAN, a déclaré mardi à Jakarta que ceci est prouvé avec l'augmentation du niveau de la facilité de faire des affaires d'Indonésie. Cependant, l'agence de notation de crédit a augmenté le niveau de l'Indonésie. Alexander Feldman a déclaré que le Conseil d'affaires des États-Unis ASEAN représente les entreprises américaines dans la région de l'Asie du Sud-Est. Il a ajouté que spécifiquement en Indonésie, ce Conseil d'affaires a le bureau à Jakarta. Au cours de la réunion, le président Jokowi était accompagné du ministre de coordination maritime, Luhut Panjaitan, le secrétaire général du cabinet Pramono Anung, le ministre de commerce Enggar Tiasto Lukita, la ministre des finances Madame Sri Mulyani et le ministre adjoint des affaires étrangères Monsieur A.M. Fahir. Le nombre de musiciens ambonais qui ont réussi à promouvoir l'Indonésie encourage l'agence de l'économie créative et le ministère du Tourisme de déclarer la ville de Ambon comme la ville mondiale en 2019. Le plan de détermination a également reçu le soutien du président du Parlement, Bambang Susatyo. Cela a été révélé lors d'une rencontre entre Bambang Susatyo et le maire d'Ambon, Richard Luenepasi, à Jakarta récemment. La réunion a également discuté la préparation de la réunion des journalistes du Parlement qui aura lieu à Ambon les Moluques du 16 au 18 mars. Richard a expliqué à cette occasion le président du Parlement était prévu pour inaugurer un certain nombre d'infrastructures comme l'une des 7 conditions prévues par l'UNESCO, à savoir le studio international d'enregistrement de musique à l'Université Patimura et le bâtiment de la performance de musique ethnique de l'Institut Public Islam IAIN Bandung. En plus d'inaugurer l'infrastructure, le président du Parlement va dialoguer avec le maire d'Ambon, le chef de l'Agence de l'économie créative, le ministre du Tourisme et le bureau musical d'Ambon, lié au lancement de la ville d'Ambon comme ville de la musique mondiale. La ministre indonésienne des Finances, Mme Sri Mulyani Indrawati, assure qu'un certain nombre de peintures d'artistes indonésiens sera exposé dans les réunions internationales de printemps du Fonds monétaire international et la Banque mondiale à Washington DC aux États-Unis en avril 2018. Il a été dit par Mme Sri Mulyani après l'ouverture de voyage en Indonésie à l'exposition d'art à Jakarta mardi. Il a déclaré que ses œuvres faisaient partie des peintures exposées dans le cadre de l'événement Voyage en Indonésie à l'exposition d'art en Indonésie du 12 au 14 mars au bâtiment Yusuf Anwar du ministère des Finances. Elle espère que les peintures qui seront exposées dans le hall du bureau du FMI et de la Banque mondiale peuvent faire profiter les visiteurs pour présenter l'Indonésie dans le monde. Cette exposition d'art était une promotion à introduire la culture indonésienne, fait partie d'une série de la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale qui aura lieu en octobre 2018 à Bali. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, le nom de l'ancien président se présente dans les élections présidentielles et législatives. Le grand événement du Parti démocratique des élections législatives et présidentielles en Indonésie a encore une année d'avance. Mais l'atmosphère de compétition est commencée. Après l'annonce des partis politiques participant aux élections générales il y a quelque temps, le public est animé par des discussions sur les manœuvres politiques telles que la possibilité quel parti qui dominera l'acquisition des voix et les candidats de vice-président et président pour défier le titulaire. Dans les discussions, il y a une histoire classique au sujet d'un nouveau parti politique, parti de travail ou Partai Berkarya dirigé par Utomo Mandala Putra ou Tommy qui veut élever le nom du deuxième président indonésien Suharto. Le symbole de ce nouveau parti politique est presque similaire à celui du Parti Golkar qui était le véhicule politique de l'ancien gouvernement au pouvoir pendant le Nouvel Ordre. En outre, la présence de Tommy en tant que président indique clairement que le nom de Suharto serait ce marchandise politique. Le secrétaire général de Parti Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, a admis que son parti adoptera des programmes réussis dans l'ère du Nouvel Ordre. Bien que certaines personnes sous-estiment la présence de Partai Berkarya, il est intéressant d'observer dans quelle mesure l'action du nouveau parti politique est dans l'élection plus tard. Entrant dans l'ère de la réforme, certains vieux partis politiques et la famille de Suharto ont perdu leur sympathie. Cependant, les résultats récents de plusieurs enquêtes mentionnent que Suharto était un président réussi. Donc, cela peut être interprété comme le souvenir de certaines personnes au sujet de Général 5 étoiles qui est au pouvoir depuis 32 ans et qui est toujours fortement implanté dans leur esprit dans certaines régions reculées d'Indonésie. Au moins, cela est visible avec l'accomplissement des dispositions du nombre de membres de conseil et des membres de Partai Berkarya dans toute l'Indonésie, comme une condition pour suivre les élections. Est-ce que c'est une preuve? Tommy a été emprisonné de 2002 à 2006 pour certains crimes tels que l'assassinat du juge de la Cour suprême Syafiuddin Kartasasmita le 26 juillet 2001. La possession d'armes à feu et de munitions, élévation délibérée. Maintenant, il préside l'un des partis politiques pour participer à l'élection présidentielle de 2019. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que le fils de l'ancien président qui était marginalisé revient finalement au centre de la contestation politique en Indonésie. De même, Megawati Soekarnoputri, la fille du premier président indonésien, pourrait également diriger et élever en parti politique le PDIP qui l'a prise comme quatrième président de l'Indonésie. Quelque chose d'impossible pourrait être réalisé dans le nouvel ordre. Maintenant, le fait est que chaque parti politique, qu'il soit nouveau ou ancien, doit prendre la sagesse de ce qui s'est passé. La vie continue, mais les aspects positifs ou la bonté doivent être mis en avant. Quand quelqu'un est au pouvoir, il ne peut pas oublier les gens de la base. Cela doit être une référence des électeurs pour déterminer qui dirigera ce pays. Le grand nom de l'ancien président peut être la marchandise politique des participants aux élections générales. Mais la critique constructive doit toujours venir. Parce que un nom célèbre n'est jamais assez pour construire un avenir difficile avec des caractéristiques différentes les uns des autres. Secrétaire, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 15 mars 1906, la société Rolls-Royce a été fondée par Frederick Henry Royce. La société Rolls-Royce a été fondée par Henry Royce, ingénieur et mécanicien de talent, et Charles Roll, riche aristocrate passionné de moteurs. Dès 1884, Henry Royce crée une entreprise d'électricité et de mécanique. En 1904, ce mécanicien autodidacte construit sa première automobile à Manchester. Puis il la raconte Charles Stewart Roll et faire des accords de partenariat d'affaires avec Lamar Roy-Rose dans le domaine des constructeurs automobiles. Cet accord a eu lieu le 15 mars 1906 à Manchester, en Angleterre. Roy-Rose non seulement construit une voiture de luxe, mais aussi la fabrication des aéronefs, notamment les moteurs d'avion. En 1971, Roy-Rose a fait faillite quand il a construit des moteurs à réaction RB211. Cela rend le gouvernement britannique à nationaliser cette entreprise. En 1973, la division qui produit des voitures de luxe a sorti de Rolls-Royce Limited et d'établir Rolls-Royce Motor. Rolls-Royce Limited devient une entreprise du gouvernement jusqu'en 1987 et après, il a été privatisé en société à responsabilité limitée de Rolls-Royce. Le 15 mars, la Journée internationale des droits des consommateurs. Depuis 1983, l'Association internationale des consommateurs célébrait la Journée mondiale des droits des consommateurs le 15 mars. Dans un discours devant le Congrès américain le 15 mars 1962, le président américain JF Kennedy avait énoncé les quatre droits fondamentaux des consommateurs, tels que droit à la sécurité, droit à l'information, droit de choisir et droit d'être entendu. En France, la défense des consommateurs est relayée par de nombreuses associations et une revue telle que 60 millions de consommateurs, réalisée par des journalistes professionnels travaillant en étroite collaboration avec les entreprises de INC, assure une mission de service public en totale indépendance vis-à-vis des fabricants et des distributeurs. Le 15 mars 1983, le jour de Nyepi pour la première fois est exprimé en tant que fête nationale en Indonésie. La fête de Nyepi a été célébrée simultanément à Bali en 1973, Auparavant, Nyepi était menée de façon indépendante dans chaque village. La base de la mise en œuvre est généralement la tradition locale dans chaque village. 10 ans plus tard, le gouvernement central indonésien a déclaré que la fête de Nyepi comme la vacance nationale fondée sur le décret présidentiel numéro 3 l'année 1983. Le 15 mars, pour la première fois, Nyepi est devenue la fête nationale. Dans le décret présidentiel, on a également fixé le jour de Waisak comme la fête nationale. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonésiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Le concept de responsabilité stricte du ministère de l'Environnement pour piéger le destroyer de l'environnement. Le concept de responsabilité stricte ou responsabilité absolue peut faciliter l'application du droit de l'environnement en Indonésie. Ce concept est prouvé pour prendre au piège des entreprises qui sont sujets négligentes de garder leur terrain de concession en cas de loi sur les feux de forêt et de terre. Cela a été confirmé par le ministre de l'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nurbaya, lundi à Jakarta. L'application du concept de responsabilité stricte est le moment à considérer dans le procès civil contre les auteurs de la pollution et de la destruction de l'environnement. La mise en œuvre du concept peut augmenter l'efficacité et l'effet dissuasif des auteurs de pollution et destruction de l'environnement. Ainsi, le droit de la constitution publique peut être réalisé. Madame Siti Nurbaya a affirmé qu'on a besoin de courage et de la grandeur des avocats, notamment les praticiens du droit, pour commencer à penser et pratiquer la responsabilité stricte basée sur une poursuite appropriée et cohérente. Auparavant, dans le cas des dommages environnementaux, notamment ceux causés par le feu de forêt et de terre, est très difficile à prouver devant les tribunaux. Dans l'ère du président Joko Widodo, l'application de la loi environnementale est faite, utilisée dans divers instruments juridiques à la fois administratifs, criminels et civils. Pour ajouter un effet dissuasif, le ministère de l'Environnement applique également le concept de responsabilité stricte dans le contexte de l'environnement. Par cette étape, le taux de conformité des entreprises gardent leur zone de concession des incendies de forêt et de terre est plus élevé et le nombre de points chauds peut être réduit de manière significative au cours des 2 dernières années. L'utilisation de la responsabilité objective dans le concept a commencé à être utilisée dans le procès du ministre de l'Environnement en tant que demandeur contre le défendeur, à savoir PT Waringin Agro Jaya, dans le tribunal de district Jakarta Sud en 2017. Dans sa décision, la Cour a conclu que les activités de défendeur liées aux plantations de palmiers à huile, c'est-à-dire d'ouvrir la terre avec la méthode de brûler, a provoqué un risque sérieux pour l'environnement. Ainsi, la responsabilité stricte s'applique à ce cas. Chers amis, c'était Mon Indonésie. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et la Hongrie renforcent une coopération. La conférence religieuse de Kazakhstan. L'Indonésie discute de la coopération économique stratégique avec la Russie. rencontre du Conseil d'affaires des États-Unis et l'ASEAN, le président a discuté sur le niveau de la facilité de faire des affaires avec l'Indonésie. Le président du Parlement soutient la ville d'Ambon d'être ville de la musique mondiale. Les peintures des artistes indonésiens sont exposées à la réunion du FMI et de la Banque mondiale. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et Malang.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Ce soir, nous allons vous présenter la grotte de Song Terus, l'un des sites touristiques à Pacitan, Java Oriental. Restez toujours avec nous à La Voix de l'Indonésie via www.voinews.id. Pacitan est une préfecture située dans la province de Java Oriental. Il y a de nombreux sites intéressants dans la ville de Pacitan, beaucoup d'options pour s'amuser telles que le surf, la natation, la plongée, le coucher de soleil, le camping ou bien la visite culinaire. Pacitan est surnommée la ville de multiples grottes et beaucoup de belles grottes fréquentées par de nombreux touristes. Les grottes qui sont connues dans cette ville sont entre autres la grotte de Gong, la grotte de Tabuhan, la grotte Kalak, la grotte Putri et la grotte Song Terus. La grotte de Song Terus est l'un des sites touristiques situés dans le village de Wareng, le district de Punung, dans la région de Pacitan, Java Oriental. Dans cet endroit, vous pouvez voir le site archéologique qui était autrefois la maison des anciens humains qui vivent à Pacitan. L'habitation humaine antique est une grotte qui a une longueur environ 150 mètres avec une largeur de 10 jusqu'à 20 mètres et avec une hauteur de toit de 10 mètres. Depuis 1999, ce site touristique est connu car on y a trouvé un ancien squelette humain estimé à environ 10 000 ans. Les archéologues et résidents locaux ont nommé cet ancien squelette comme Mbah Sayem. La grotte de Song Terus contribue grandement à l'histoire de l'Indonésie parce qu'ici se trouvent beaucoup d'objets préhistoriques utilisés par les humains anciens, tels que des outils faits d'eau, des coquilles et aussi des restes squelettiques d'animaux et d'humains. Cela a fourni des preuves suffisantes que cette grotte est utilisée comme une habitation passée et pleine de reliques archéologiques. Les installations disponibles ici sont uniquement des toilettes publiques, des parkings et des stands autour de la zone de la grotte de Song Terus qui fournissent de la nourriture et des boissons. Son emplacement est très facile à visiter. Les touristes peuvent utiliser des véhicules privés ou bien les transports en commun. Les heures d'ouverture de centres de 8h du matin jusqu'à 17h du soir. Si vous avez un passe-temps de la photographie dans cet endroit, vous pouvez suivre le long de la grotte et immortaliser divers paysages sur la demeure de première humaine, y compris des peintures ou bien des dessins sur les murs de grotte. Bon, chers amis, c'était magazine culturel de la Voix de l'Indonésie intitulé La grotte de Santrus située à Pacitan, Java Oriental. Merci à tous et au revoir.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta, dans la rubrique Bahasaku, comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La Voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Ma Langue, comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Ma Langue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province Moluques afin de connaître plus loin la langue de Yalahatan. Il y a quelques religions adoptées par le peuple au village de Yalahatan, à savoir l'islam, les religions protestantes, catholiques et tribales. La religion tribale, qui est la majorité, possède un enseignement similaire à l'hindouisme, mais avec des pratiques différentes. Dans la religion tribale, les croyants croient en Dieu appelé Upu Lahatala, qui signifie Dieu le Créateur. Au village de Yalahatan, il y a des bâtiments modernes tels que des maisons, des mosquées, des églises, des salles de fêtes et des maisons traditionnelles. Cependant, il y a quatre maisons tribales où habite le chef de Soa, au clan, avec sa famille nucléaire. Les quatre maisons de cette tribu ne devraient pas utiliser l'électricité, même pour éclairage, ils seulement utilisent des lumières. Chers amis, voici quelques exemples de mots dans la langue de Yalahatan. Ama, ama, en français, le père. Suahilama, suahilama, en français, rentrer. Anmite ehu, en français, dîner. Ampalahi, ampalahi, en français, regarder. Muturu, muturu, en français, dormir. Et maintenant, je vais donner un exemple de conversation dans la langue de Yalahatan. Amai suahilama kantor. Amai suahilama kantor. En français, le père rentre du travail. Opakela ama almite ehu. Opakela ama almite ehu. En français, ensuite, le père prend le dîner. Yam anmite ehu ama ampalahi e televisi. Yam an miteo ama am palahie televisi. En français, après avoir dîné, le père regarde la télévision. Opakela ama moturo. Opakela ama moturo. En français, puis le père dort. Si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à voy@voynews.id. Je répète, voy@voynews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voyindonesia et Twitter @voyindonesia. Chers amis, c'était le programme Ma langue, comédia de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Merci à tous et au revoir.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada. Le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs du service mondial de RRI, La Voix de l'Indonésie, où que vous soyez. Voici le magazine musical, un programme qui vous présente la musique indonésienne, qu'elle soit traditionnelle ou moderne. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons les chansons nostalgiques chantées par Iis Sugianto. Pour commencer notre programme d'aujourd'hui, écoutez une chanson intitulée « Ne blesse pas son cœur ». Bonne écoute. La chanteuse avec le nom original Kuspuji Istining Diah est apparue pour la première fois dans le programme Kenalan Baru, diffusé par TVRI en 1978. Yi Sugianto a chanté de chansons dans l'album Selangkah ke Seberang du célèbre chanteur Faris RM. Malheureusement, elle n'a pas réussi à populariser son nom sur la scène musicale indonésienne. Le nom d'Yi Sugianto vient d'être reconnu depuis qu'elle chante les chansons d'un chanteur, compositeur et producteur fiable indonésien, Rinto Harahap. Son premier album sous la responsabilité de Rinto Harahap en titre « Ne blesse pas son cœur ». Cet album a été lancé en 1979. La chanson principale dans cet album est intitulée « Jangan sakiti hatinya » ou « Ne blesse pas son cœur ». Bon, c'est retour, voici l'autre chanson d'Yi Sugianto intitulée « Ton destin est mon destin ». Bonne écoute.
Sepi, tiada berbintang.
Serviteurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse, Ii Sugianto. Le succès de l'album intitulé Ne blesse pas son cœur ne rend pas Ii Sugianto satisfaite. En chantant toujours les œuvres de Rinto Harahap, Ii Sugianto est très connue de plus en plus. Elle est également connue comme une chanteuse qui a chanté des chansons douces et mélancoliques. Son apogée est dans les années 1980. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, écoutons donc les dernières chansons d'Ii Sugianto intitulées Tubereuse et Écharpe Rouge. Bonne écoute et à bientôt!
Jangan turun lagi
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/FRENCH. Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/FRENCH.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.